I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sœur, propre Oli Domso, plus beau gosse que jamais, Rust fidèle à lui-même. Alors aujourd'hui, on est un petit peu de retard, une petite demi-heure de retard, tranquillement, parce que on avait des petits sujets très importants à discuter en interne. Oui?
Sur l'échelle de Oli Domso, c'est être à l'heure. Hein. Et... je dis ça.
Hein. Oh non, foiré. Alors, pas d'attente, voilà, c'est ce qu'on nous dit dans le chat. Alors, on va s'intéresser au Glory 78 qui fait son retour. Badr Hari, do or die quasiment pour cet événement-là. Vous le savez, on est partenaire avec le Glory, diffusé exclusivement en pay-per-view sur glorifights.com. Le lien est dans la description et sur le commentaire épinglé. On lance le générique et puis ensuite, c'est parti pour ce podcast avec le trio des enfers. Swear. Donc on est reparti. Alors donc Badr Hari qui affronte donc quelqu'un qui a un nom du propre aveu de Badr Hari très difficile à prononcer. Il le prononce lui-même Tarek, je crois, si je ne m'abuse. Donc
son prénom est plus accessible, je crois.
Oui, exactement, c'est Arcadius. Arcadius.
Arcadius. Et stylé en plus. Hein. Il y a vraiment un côté perso de Soul Calibur. Quoi.
Exactement. Donc bilan de 12-5, 7 KO en carrière. De son côté, Badr Hari, 106-15, 92 KO en carrière. Troisième du Glory Badr Hari et son adversaire classé 8e, Oli Domso. Est-ce que là, on va avoir véritablement un choc, un combat disputé ou normalement Badr Hari doit lui rouler dessus?
En réalité, je vais pas vous mentir, Badr Hari est archi favori dans ce combat. Arcadius, il est pas mauvais, mais il a pas du tout l'expérience de Badr Hari. Il a pas du tout rencontré les mêmes noms non plus. C'est, il y a quand même, je pense, 3 ou 4 classes d'écart entre les deux combattants. Ça veut pas dire qu'Arcadius n'a pas le potentiel de faire quelque chose après, mais là, il est vraiment très très frais dans sa carrière. Ça veut pas dire non plus que c'est joué d'avance, parce qu'on se souvient par exemple de Crocop qui a fait son premier combat au K1 et je crois que ça devait être son deuxième combat de kickboxing contre Jérôme Le Banner et il avait gagné. Donc c'est possible. C'est
vrai qu'on peut. Et pour continuer sur ce que tu disais, Oli Domso, on peut même continuer sur Jérôme Le Banner en disant que Jérôme Le Banner, par exemple, qui a combattu récemment des gens qui n'étaient théoriquement pas de son calibre et qui n'ont pas sa renommée ni son expérience ni sa technique ni tout ce qu'on veut, et ça a été compliqué parce qu'il y a aussi l'âge, parce qu'il y a aussi les dynamiques de carrière, quoi.
Voilà, et ça, c'est vrai que c'est ça le gros aléa. Si on me dit Badr Hari, le Badr Hari, on va dire de 2009 face à Arcadius, vous pouvez jouer votre maison, la bagnole de votre voisin et la totale sur Badr Hari, il y a pas de problème. Là, le problème, c'est qu'on est sur un Badr Hari qui, je pense, techniquement est toujours là. Ce qu'il fait, c'est très beau. Il y a pas de déclin technique. Il n'y a même pas un déclin dans l'entraînement. Je pense qu'il s'entraîne toujours très, 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 très dur. Il arrive toujours prêt. Mais c'est juste, en fait, son corps lâche. Parce que moi, ma théorie que j'ai sur Badr Hari, sur le fait que son corps lâche, c'est que... Non, c'est pas une théorie de ouf, c'est juste que...
C'est qu'il voit mal de l'œil gauche.
Non, mais naturellement, je pense pas qu'il a le gabarit pour faire le poids qu'il fait. En fait.
Ben oui.
Je pense que naturellement, Badr Hari, quand on voit ses premiers combats et jusqu'à à peu près la période 2005, quand il était encore au Shakuriki Gym, ouais, avant qu'il fasse sa transition chez Mike Passionnaire, et Mike Passionnaire est quand même connu pour transformer ses combattants physiquement. Mm-hmm. Et vous regardez Gokhan Saki avant Mike Passionnaire, après Mike Passionnaire, vous regardez Arthur Kishenko avant Mike Passionnaire, après Mike Passionnaire, et vous regardez Badr Hari avant, après, il y a un changement, mais radical.
Il y a un gros focus sur les entraînements, oui, de ce type-là, en dehors de...
Ah non, c'est clair. Et je pense que cette armure qui protégeait Badr Hari véritablement, parce que Badr Hari jusqu'à peu près 2005-2006, c'était un canon de verre, à proprement parler. C'est-à-dire qu'il avait toujours cette puissance de frappe, mais quand les combats duraient longtemps et qu'il affrontait des mecs qui étaient un peu plus rugueux, un peu plus durs, ça pouvait terminer en sa défaveur, en fait. Et ben, cette armure qui l'a portée, qui lui a permis d'avoir des victoires face à Alistair Overeem, face à Semi Shield par exemple, là j'ai l'impression qu'elle se retourne un peu contre lui et que bah, son corps en fait s'effondre un peu sous lui en fait, sous cet effort qui n'est pas en fait quelque chose de, je pense, naturel, qui n'est pas la croissance naturelle qu'il aurait dû avoir en fait Badrari à ce niveau-là. À cela s'ajoute que je pense que Badrari, en plus de ça, a une mentalité de c'est pas pour le critiquer, mais il y a des archétypes comme ça dans les sports de combat, mais il a une mentalité de bully. C'est-à-dire quand il arrive à dominer son adversaire, il est impeccable, Badrari. Quand tu le vois qui déroule face à Peter Hertz ou face à Semi Shield dans le premier combat, tu te dis il y a personne qui lui arrive à la cheville à ce mec-là. Il arrive à faire des trucs de dingue. Par contre, quand ça s'accroche, quand c'est dur, quand c'est chiant, quand l'autre en fait ne veut pas se laisser faire et qu'il rend les coups, et même quand il rend les coups alors qu'il perd, bah d'un coup en fait la lutte devient beaucoup plus complexe en fait pour Badrari, et on l'a vu perdre des combats qu'il aurait dû gagner. Je pense à son troisième combat contre Sabit Samedov, je pense à son combat contre Benjamin Adegbouyi, je pense également à son combat contre Ismaël Lont. Alors il le gagne, mais
laborieux.
Ah oui, parce qu'il met trois knockdowns sur le premier round et après il manque de perdre le combat par KO en fin de combat. Enfin, c'est un truc délirant, alors qu'Ismaël Lont n'a pas du tout le niveau ni le pédigré de Badrari. Donc c'est toujours très très aléatoire quand on parle de Badrari, à plus forte raison le Badrari de cette période, parce qu'on est quand même plus, malgré tout le respect et toute l'admiration qu'on peut avoir pour Badrari, on est plus sur le crépuscule de sa carrière. Moi je pense qu'il a une carrière énorme, il combat depuis qu'il a 16 ans, là il en a 35 ou 34.
Ouais, un truc comme ça.
Ouais. Il est né en 84, ouais. Donc ouais, 36.
Ouais. Ouais, donc voilà, et donc oui, ça plus la musculation, plus la prise de poids qui maintenant se retourne contre lui, plus le mental qui est peut-être, ça a toujours été un peu son talon d'Achille en fait à Badrari, bah c'est que tu peux pas être certain à 100%. Ça et aussi le fait que en kickboxing tu peux toujours être surpris par le newcomer. Bah, Mirko Krokop, personne misait sur lui avant qu'il arrive au K1 et il a surpris tout le monde. Arkadiusz, on peut se tromper aussi sur lui. Il a un physique qui est assez impressionnant. Hein. Il est très grand, il est jeune, il en veut. Il a pas l'air intimidé par Badrari.
Et ça rejoint ce que tu dis hein, par rapport au physique avec Benjamin Adegbuyi, qui était aussi mine de rien outsider face à Badrari. Mais qui était quand même beaucoup bien meilleur.
Déjà, il avait l'expérience que Arkadiusz n'a pas, mais en plus c'est un tank. Hein. Il est vraiment très large le mec. Hein. C'est assez. Je m'en rendais pas compte en fait parce que je l'avais vu que dans le ring avec Rico Verhoeven avant. Mais bon, c'est vrai qu'à côté de Rico Verhoeven, bon, c'est chaud d'avoir l'air très impressionnant, mais c'est vrai qu'il était plus épais, en fait, que, peut-être moins dessiné, moins tracé que Badrari, mais il était, enfin, tu vois, c'est une masse, le mec, c'est une force de la nature. Arkadiusz, il a l'air un peu plus, longiligne, un peu plus longiligne. Donc, bon, généralement, moi, je te dirais que le favori reste Badrari. Il a la puissance de KO, il peut éteindre, quasiment n'importe qui dans le bon soir en fait, il peut éteindre n'importe qui. Maintenant, il y a toujours un petit aléa sur l'état mental et sur l'état physique aussi de Badrari qui dans cette circonstance et dans cette succession de combats qu'il a eu qui l'amène à Arkadiusz Zorek.
Ouais, donc Arkadiusz, il était aux alentours des 105 kilos justement quand il combat, alors qu'il est plutôt aux alentours des 117 kilos à Adegbuyi. Donc forcément, ça fait une énorme différence.
C'est clair. Ouais, et puis c'est clair que ce sera moins difficile effectivement d'impacter un mec qui fait 105 kilos que d'impacter les monstres qu'a combattu effectivement Badrari. Il y a un autre truc aussi que je voulais ajouter qui est intéressant, je pense, c'est le fait que depuis ces dernières années, il y a toujours eu un petit peu des hauts et des bas dans la relation entre Mike Passionnier et Badrari, et là Badrari a changé totalement et complètement d'entraîneur. Et un des trucs que j'ai trouvé super intéressant dans les interviews qu'a donné Badrari justement là ces derniers jours, c'est qu'il disait Mike Passionnier, on se connaît, mais vraiment, c'est difficile de mieux connaître quelqu'un que les 15 années qu'ils ont passées ensemble, à souffrir ensemble, à tout vivre, etc. Mais Badrari disait, le truc qui a toujours manqué quand j'étais avec Mike, c'était une stratégie de combat, en fait. Et là, il dit, c'est ce que j'aime beaucoup avec Saïd, j'ai oublié, le nom de son nouvel entraîneur, mais c'est ce que Badrari aime avec lui, c'est que, il y a vraiment une notion de stratégie, de construction tactique, de tactique pendant le combat. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui, donc Badrari cite, a un œil neuf, et même s'il n'idolâtre pas Badrari, il a envie de faire ses preuves et de montrer qu'il peut apporter quelque chose de nouveau, de montrer qu'il a aussi son système d'entraînement qui peut apporter quelque chose à Badrari. Et ça peut être une dynamique de carrière pour Badrari qui peut être honnêtement, ça peut complètement le régénérer, quoi. Donc, je suis assez curieux de voir aussi un Badrari, le Badrari nouveau avec son nouvel entraîneur.
Ce que je voulais dire, donc, c'était le nom du coach de Badrari, le nouveau, c'est Saïd El Badawi. Et là, je disais à Podium Show, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter sur le main event Badrari contre Arek?
Non, mais ce que je disais, c'est que c'est le meilleur combat là actuellement pour rebondir, parce qu'on est peut-être, les gens qui nous écoutent se diront peut-être qu'on est sévère avec Badrari, parce qu'en fait, on l'a vu contre Adegbouyi et Verhoeven, qui sont c'est le top de la catégorie actuelle en poids lourd. Et c'est vrai que peut-être là, il va peut-être pulvériser Arkadiusz en un round. Il y a des chances, hein, honnêtement, il y a des chances. Hein, c'est Badrari quand même. Et je pense que c'est ce qu'il faut, parce qu'il faut relancer la hype. On est quand même. Bon, la carte est intéressante. Voyez un exemple de carte bien intelligemment menée de la part du Glory en termes d'utilisation de la renommée de quelqu'un. C'est-à-dire que les gens vont regarder cette carte parce qu'il y a Badrari. Et en même temps, ils vont essayer de mettre un coup de projecteur sur la catégorie des lourds et sur les nouveaux arrivants dans la catégorie des lourds. Donc, on a Tarek... j'oublie tout le temps son nom. Tarek...
Richters.
Vas-y. Non, c'est Lévi Richter, Lévi Richter. Contre Thomas Mosny, et il y a Antonio Plasiba contre Tarek, je sais pas.
Oui, Babes, oui, complètement, qu'avait justement battu Richter.
C'est ça, et qui s'était incliné face à Rico Verhoeven parce que c'était un tournoi et tout. Et donc, c'est un peu les newcomers, quoi, c'est les espoirs. Lévi Richter, on le connaît, il est très prometteur. Je pense qu'il peut vraiment donner quelque chose de très bien. Contre Thomas Mosny, c'est très intéressant. Thomas Mosny, on lui passe un coucou. Ça a été le sparring partner de Cyril Gane dans sa préparation contre Volkov. Et il a vraiment un style qui est très agréable à regarder, avec des high kicks de la jambe avant et de la jambe arrière monstrueux. Ce serait vraiment très drôle qu'il arrive à mettre KO par high kick Lévi Richter, qui doit faire plus de 2 mètres. Donc, ce serait très drôle. Mais il est capable de le faire. Hein.
Ah oui,
très largement. Et Tarek Bazis, c'est vraiment un guerrier. Le mec, il te rentre dedans. Il fait des combinaisons à la Rotang en corps-corps, tête. Et puis il finit en low kick, donc c'est un bourrin. Et en face de lui, il y a Plasiba, qui est plutôt un mec qui est très complet, qui a un bon conditionnement. Il s'entraîne chez Mike Passoner d'ailleurs, Plasiba aussi, il me semble, parce qu'il a le style de conditionnement physique est vraiment Dutch style. Enfin, c'est vraiment c'est signé, quoi. Et c'est marrant, que c'est peut-être un reproche qu'on peut faire aussi à Mike Passoner, c'est que quel que soit le combattant qu'il a, il va en faire le même produit en fait au final. Il y a des combattants comme ça. Un autre combattant qui fait un peu ça et qui récemment m'a donné un peu de grain à moudre en MMA, c'est peut-être Firas Abis, qui a tendance à essayer de reproduire toujours le même combattant, à faire une espèce de... Il part du patron, en fait, Georges St-Pierre, et il l'applique à Rory McDonald, à Kevin Lee, à Arnold Allen. Enfin, et parfois, ça prend pas. Parfois, ça prend et ça marche, mais parfois, ça prend pas, parce que tous les combattants sont différents. C'est un peu pareil avec Mike Passoner. Il a vraiment, quand on regarde cette période-là de tous les combattants qui sont passés par lui, grosse emphase sur le conditionnement physique et sur la préparation mentale, enfin un mental vraiment d'agression, d'attaquant, quoi, de mecs qui vont venir te chercher. Mais après, c'est vrai que ça a tendance un peu à gommer les singularités des combattants, et parfois c'est ça qui les rend bons. Alors ça marche quand t'es Badrari, et que la mentalité agressive te convient, et que du coup le fait de te produire un conditionnement physique adéquat maximise ton agression. Mais par contre, moi, j'ai toujours trouvé, par exemple, qu'Arthur Kishenko avait été moins bon avec Mike Passoner qu'avant, en fait. Mmh. Parce que tout son travail de body punch et de balayage et tout qu'il avait quand il était tout jeune, de le voir, par exemple, quand il avait 19 ans, quand il affrontait Masato à 19 ans, et qu'il faisait quasiment jeu égal avec Masato, alors qu'on était sur le top de Masato. Enfin, c'est délirant pour les gens qui savent de qui on parle. En fait, Masato, c'était un des meilleurs kickboxers à l'époque. Il était au top, quoi. Et à 19 ans, le mec faisait quasiment jeu égal avec lui, alors qu'il venait d'un... Il s'entraînait même pas en Hollande et tout, tu vois. Et le fait qu'il soit passé chez Mike Passoner l'a doté d'un physique très impressionnant. Mais je trouve qu'il a perdu tout ce savoir-faire qu'il avait, toute cette singularité, en fait, ces techniques qu'il avait. Bon, après, il s'est rattrapé. C'est un des meilleurs kickboxers encore actuellement, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que je comprends aussi la démarche de Badrari, peut-être de sortir, en fait, de l'emprise Mike Passoner, tout en gardant tout ce que Mike Passoner lui a apporté. Hein. Il renie pas du tout son temps.
Chez
Mike Passoner. C'est juste, il veut découvrir autre chose. Et je pense que c'est plutôt une bonne démarche. Donc, regardez cette carte, c'est très intéressant.
On et Cocorico Nordin Mayedine, quand même.
Ouais, est-ce qu'il est sur... Non, il est pas sur la carte, c'est dommage, parce que c'est vrai que c'est un des...
Il est sur la carte.
Ah, il est sur la carte, alors qu'est-ce qu'il va faire?
Il me semble même qu'il s'est entraîné avec Badrari, si je ne m'abuse, parce que je crois que c'est lui qui était dans l'épisode 2 de Legacy.
Rust, tu ne t'abuses pas du tout, effectivement.
Ben voilà, c'est pas ça.
Très bien. C'est très bien. Nordin Mayedine qui avait battu Plasibat, d'ailleurs. C'était plutôt un upset, en fait.
C'est clair.
Comme victoire, parce que Plasibat était prévu comme un peu le... l'espoir en fait de cette catégorie. Donc non, mais c'est cool. Enfin, c'est vraiment bien là. En plus, on a toute une génération de poids lourds où il ne manque en fait que l'attention médiatique, parce que le talent ils l'ont. Vous prenez Levi Richter, vous prenez Thomas Mosny, Plazibat, Baziz et Mayedine, ils sont tous très très bons. Il faut juste en fait le petit coup de projecteur. Et en fait, quand on réfléchit au succès par exemple du K1 et de cette période-là où tout le monde pouvait battre tout le monde, là on est pas très loin de ça en fait, parce que quand tu regardes Plazibat, il a battu Mayedine, mais il a perdu aussi contre Mayedine. Enfin, ils ont tous à peu près un niveau équivalent. Richter, il a perdu contre Baziz, mais je pense que le bon jour, il peut battre Baziz. Donc en fait, clairement, ils peuvent se tirer la bourre comme les, je sais pas, les Sam Greco, les Mark Hunt, les Jérôme Le Banner se tirer la bourre lors du K1. Il faut juste en fait le bon coup médiatique et bénéficier, tirer parti de Badrari, c'est pour moi la meilleure stratégie pour ça.
Et ben voilà, donc là vous avez un petit petite preview de tout ce qui vous attend, et il y a aussi donc le rematch pour le titre light heavyweight, Pereira contre Varitov. Les deux s'étaient quittés par une victoire de Pereira. Je sais pas si c'était un upset parce qu'on était assez partagé, je crois, dans nos pronostics. En tout cas, victoire par split décision de Pereira. Et là, maintenant, ils reviennent tous les deux. Alors,
je te laisse. J'ai beaucoup parlé, Rust, donc je te cède la parole.
Bah non, toujours. Honnêtement, je serai pas très long parce que, pour être tout à fait honnête, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va. Les deux ont un style qui est pour le coup extrêmement particulier, avec Pereira qui a un style un peu moins académique, disons, que celui de Varitov. Mais comment dire, les deux sont au top de leur game. Le truc, c'est que ben.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Je n'ai aucune idée en fait de ce qui va pouvoir changer la dynamique pour le combat, pour la revanche. Je ne sais pas ce qu'ils vont apporter de différent qui va faire que, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on va avoir littéralement ce qui se fait de mieux en kickboxing, en light heavyweight, et rien que pour ça, en fait, on peut mettre les deux pieds sur le fauteuil et puis regarder, mais vraiment en toute confiance, parce qu'on sait que ça va être le top, quoi.
Et Polydance, est-ce que toi, t'as été surpris justement de la victoire de Pereira face à Varitov, qui était quand même le roi quasi incontesté de cette catégorie light heavyweight?
Ben je sais plus. Moi, je me semble que j'avais prévu que ce soit Varitov qui l'emporte. Il me semble dans les previews, mais peut-être je suis en train de faire du.
Non, je crois que c'était ça. Je crois que c'était
ça. Une relecture rétroactive, mais de mémoire, je crois que j'avais prévu ça parce que je m'étais dit qu'en fait, dans mon idée, c'est que Varitov, il allait pas se laisser écraser en fait sur les premiers rounds et qu'il allait revenir et que Pereira sur la longueur, sur la durée, face à un technicien. Et qu'il ne traumatise pas en fait sur les premières reprises, bah ça va être très compliqué pour lui parce que Varitov, en fait, Varitov, quand tu regardes les défaites qu'il a eues ou les combats un peu tendus qu'il a eu, c'est jamais vraiment très clair en fait. C'est juste un peu comme il est un peu comme ça fait chier, je ressors ce mec à chaque fois que je parle de kickboxer, mais il est un peu comme Alexei Ignashov, quoi. Parfois il perd les combats parce qu'il est pas actif, parce qu'il laisse un peu le truc se jouer sous lui. Alors il est jamais vraiment je crois qu'Alexei Ignashov, il avait jamais été mis knockdown de toute sa carrière, ce qui est hallucinant. Varitov, ça a dû lui arriver, mais en début de carrière, et là, pareil, c'est rare qu'il soit mal en fait, parce que non seulement il a une très bonne défense, mais en plus il a un bon menton. On se souvient de son combat contre Donegui, Donegui, il prend un high kick mais flush et il s'écroule pas, quoi, il continue de combattre, et donc il a les deux. Et là, dans son premier combat contre Pereira, il a pris des gros coups. Il avait toujours la garde haute, et même quand ça passait, notamment des genoux sautés et tout, ça l'a pas découragé. Il s'est toujours accroché et il a mis un jeu de pression. Et honnêtement, tel que je me souviens le combat, la fin de combat était clairement pour Varitov. Très clairement, il marchait vraiment sur Pereira, qui n'avait pas pu passer aussi bien ses techniques qu'il peut passer habituellement, parce que Pereira, il a un peu ce style très très étrange où il a les mains très basses, il est vraiment pas orthodoxe du tout, où il fait vraiment peur à ses adversaires, il les fait reculer, et en les faisant reculer, c'est là où il peut vraiment dérouler son jeu d'agression et d'anglaise principalement, parce que je pense que sa grande force, c'est sa précision en fait sur ses coups et sa capacité à vraiment appuyer au moment où il anticipe en fait le déplacement de l'adversaire. Il aime beaucoup mettre les KO comme ça le long des cordes, ou quand un adversaire essaye de de partir sur son côté droit ou sur son côté gauche. Il va avoir la bonne technique au bon moment et il a vraiment une très bonne précision. Et comme en plus il part du bas, vu qu'il boxe pas garde haute mais garde basse, et qu'il a des, il a plutôt une grande allonge, il est un peu longiligne, un peu à la Thomas Hearns, pour ceux qui se souviennent un peu de son style de boxe, toute proportion gardée parce que c'est pas un boxeur, mais c'est comme ça qu'il arrive à avoir du pouvoir de KO assez, assez violent. Et là, de se faire marcher dessus, et de pas pouvoir installer sa distance, et de pas pouvoir surprendre l'adversaire, il avait été plutôt mal. Alors, il avait trouvé d'autres trucs, hein, avec les genoux sautés, notamment, les travails en uppercut, tout ça, ça marchait bien, mais il a pas réussi à casser, Varitov. Et moi, je pense que Varitov, d'avoir fait, 5 rounds avec Pereira, où il a subi le pouvoir de Pereira et il sait qu'il peut l'encaisser, ça va être très encourageant pour lui, tu vois, pour ce rematch en fait. Parce que toute la crainte, toute l'anxiété que tu peux avoir quand tu combats un mec comme Pereira, si tu as réussi à encaisser la tempête pendant 5 rounds et qu'en plus c'est toi qui gagnais le combat sur la fin, je pense, moi, mon instinct, c'est que Varitov va gagner ce combat et il va le gagner. Je m'avance, hein, peut-être je me plante, mais je pense plutôt facilement. Justement pour la. Parce qu'il s'est passé ses 5 rounds, parce qu'il a pris la tempête et parce qu'il revenait et qu'il était, il savait en fait ce qu'il faisait. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que là, je m'avance un peu, tu vois, je me mouille, mais je pense que c'est comme ça que ça va se dérouler en fait. Je sais pas ce que vous pensez, vous.
Que dire?
Que
rajouter?
Que dire? Est-ce que messieurs, on se lance dans les pronostics?
Bah allez, hein. Allez. On est là pour ça. Hein.
Oh là 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 là. Rusty et joueur. Donc on va commencer par Pereira contre Varitov numéro 2.
Du coup, toi, Polydomso, t'étais sur... tu vois KO ou tu vois décision?
Je pense TKO round 3 pour Varitov.
Ben, je vais dire... parce que c'est vrai qu'instinctivement, je suis d'accord avec toi, on aurait tendance à dire que le technicien et le scientifique du kickboxing, une fois qu'il a un peu cadré et analysé son adversaire, ben forcément, il a plus de marge de progression.
Et j'ajoute, Rust, c'est quelqu'un qui nous dit ça dans le chat, et c'est assez pertinent aussi. Oui, c'est vrai que Pereira était hyper actif et avait poursuivi sur sa lancée face à Varitov. Alors Varitov, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas boxé, justement. Ben, la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était quand on était au Zénith face à Abena. Oh.
Après, c'est alors là, c'est une pierre dans mon jardin et je salue l'auditeur qui nous fait cette remarque qui est très pertinente. C'est vrai que Pereira a continué de combattre notamment à MMA tandis que Varitov n'a pas combattu depuis. Ouais. Donc il y a toujours un problème d'activité chez Varitov. C'est un aléa, c'est un truc qui peut arriver. Peut-être il peut arriver complètement hors de forme, hein, Varitov. Hein, c'est aussi possible ça.
C'est vrai que d'ailleurs ça c'est assez étonnant, mais Varitov, il a toujours eu ce problème, j'ai l'impression. Honnêtement, aussi loin que je me souvienne, j'associe vraiment tout le temps Varitov à inactivité, que ce soit blessure, que ce soit quoi que ce soit d'autre. Mais j'ai vraiment l'impression que depuis que je suis la carrière de Varitov, c'est extrêmement espacé. Quoi,
espacé, ouais, c'est clair. C'est clair. Mm. Je suis d'accord.
Ben ouais, non, bah du coup, TKO round 3 pour Polydomso, pour Varitov, bah je vais, ouais, je vais m'aligner aussi et je vais dire. Je vais dire TKO, bon, juste pour dire un truc différent, mais round 4.
Ben moi, je dis TKO Pereira. round numéro 3, voilà.
Round.
Okay. Round, au troisième round. Bien, enchaînons, messieurs, avec le main event. Bon.
Moi, je dis Badrari KO premier round. Je pense que quand même... Enfin, tu vois, il y a des niveaux dans ce jeu-là. Arcadius a l'air brave et en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est pas du tout inquiété par la perspective de combat de Badrari. Il est pas nerveux et il est calme. En plus, la conférence, moi, j'ai beaucoup aimé cette conférence. J'ai trouvé qu'ils étaient en transparence tous les deux. Ils ne jouaient pas un rôle. Ils n'ont pas cherché à s'impressionner.
Absolument.
Comme l'a dit Bader, oui, t'es arme quand tu perds. Oui.
Non mais Arcadius par exemple aurait pu essayer de faire genre ouais c'est un vieux je vais le dégager tu vois, non pas du tout, il était j'étais fan de Badrari, je le suis toujours, c'est un honneur de partager son ring et je pense qu'il le pense réellement. Il y a beaucoup de combattants de la génération d'Arcadius qui ont grandi en fait en regardant Badrari, donc ce serait mentir que de dire bah non je le reconnais pas ce mec là et Badr pour le coup je pense que c'est aussi une conséquence de sa défaite contre Adegbouyi. Il était bon, de toute façon, je vais gagner, mais je le respecte quand même, il va montrer des choses, tu vois. Donc, c'était assez agréable de, surtout de la part, en fait, de Badrari, c'est assez inattendu, mais d'avoir cette honnêteté, cette transparence l'un vis-à-vis de l'autre, en fait.
Et c'est vrai que la dynamique était vraiment, c'était agréable, je suis d'accord, parce que les deux étaient très authentiques, mais en plus de ça, lorsque, Arcadius a dit effectivement qu'il respectait beaucoup et c'était qu'il était fan de Ballary. Ça a permis à Ballary de dire aussi, bah, de la même manière que moi j'ai été fan de Peter Hertz, donc ça fait plaisir et je me retrouve dans cette dynamique machin. Enfin, c'est vrai que c'était très plaisant, quoi. C'était chill, plaisant, et ça faisait plaisir de voir un Ballary qui était vraiment humble, qui était très conscient et lucide, mais bah, vous l'avez évoqué en début de podcast, mais bon, effectivement, on a vu ces dernières années que c'était assez aléatoire le gabarit qu'apportait Ballary dans ses combats. Là, visiblement, si on se fie à la carcasse qu'on a vue derrière les t-shirts blancs, il arrive en forme quand même. Il arrive avec bien les kilos de barbac qu'il faut et il arrive en bas de retank, quoi.
Ah donc, oui, non, là, il va être monstrueux. Il va être monstrueux.
Il a l'air très bon. Il a l'air monstrueux. Il a l'air très monstrueux. Donc, je pense effectivement qu'il y a moyen, en plus, si sur ce combat, alors que lui revient sur un gros gabarit face à Arcadius, qui lui est plutôt petit pour la catégorie, il y a moyen que la tornade l'emporte, quoi.
Le manager de Bader m'a même dit, ce qui est sûr, c'est que Bader apparaîtra très différent physiquement et mentalement.
Il y a de quoi hyper là. Hein.
On va voir, mais en tout cas, oui, ce qui était marrant aussi, c'est que pour la conférence de presse, quand à un moment il parlait justement de Peter Hertz, il y a Arek qui avait dit, oh oui, je veux te faire la même chose. Et il y a Bader qui fait, non, mais moi, je suis pas Peter Hertz. Donc bon.
Oh, c'était tellement stylé.
Mais
ça.
C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans cette, c'est pour ça que je dis qu'ils étaient transparents et authentiques. C'est que ni l'un ni l'autre n'ont plus fait les faux modestes, quoi.
Exactement.
On verra bien ce qui se passera samedi dans le ring. Si c'était pas dans ce langage-là, qui est toujours un langage un peu, je pense, faux la plupart du temps, parce que quand t'es combattant, t'es persuadé que tu vas gagner. On va pas se mentir. On fréquente les combattants depuis suffisamment de temps. Oui, t'as besoin de cette confiance absolue quand tu combats. C'est pas nécessairement que tu vas sous-estimer l'autre, c'est juste que bah, si tu n'y crois pas, personne n'y croira pour toi de toute façon. Donc ce qui m'a plu, c'est qu'ils se sont pas agressés, ils se sont pas rabaissés l'un et l'autre, mais ils étaient tous les deux sûrs de gagner. Donc c'était assez intéressant parce que Badrari disait je te respecte, je vais te cartonner, mais je te respecte. Tu vois, et Arcadius disait oui, je suis fan, mais ça va pas m'empêcher de le coller quand on va se battre, quoi. Mais ça c'est cool, tu vois, j'aime bien cette ambiance-là, quoi.
Non, ça, c'est les meilleures dynamiques, et je finirai personnellement là-dessus, mais juste, et je sais que s'il y a des fidèles parmi les fidèles, je vais vraiment leur casser les noix, mais ce genre de discussion extrêmement réelle et authentique où les deux se parlent directement et où t'apprends beaucoup plus des personnalités parce que tu sens que c'est authentique, c'est vraiment, bah, je vous conseille, si ça vous a plu, la conférence de presse de Ballary versus Arcadius, allez mater les one-on-one de Tyson Fury versus Klitschko. Juste, si vous kiffez ce genre de dynamique, vous allez adorer. Enfin, c'est ce qu'on préfère, quoi, quand il n'y a pas forcément de jeu, de prétention, de machin. Juste, c'est un humain qui regarde un humain dans les yeux et ils se parlent et ils se disent vraiment les choses. Et c'est toujours très intéressant. Franchement, je vous conseille d'aller voir.
Oh, reste. Dis donc. Bon, alors maintenant, le pronostic. Pronostic final. Donc, on a Poidomso qui nous a dit Badrari.
Bah, j'aurais tendance à dire Ballary aussi, ah oui, et okay. J'aurais tendance aussi à dire premier round. Mais non, mais le problème, c'est qu'en fait, là.
Mais là, il a pas le droit de faire autrement, de toute façon.
Mais il a pas, oui, et puis en fait, j'ai envie de dire,
ce n'est pas
vu
possible.
Tout ce qu'on vient de dire sur l'état de forme de Ballary, vu tout ce qu'on vient de dire sur l'inexpérience de Arcadius, en fait, toutes les données qu'on vient d'apporter là sur la table, ça, mm-hmm. ça pousse. Enfin, si on est logique avec tout ce qu'on vient de dire, ça pousse vers, grosso modo, des premiers échanges où Ballary va commencer à cartonner en jab ou en low kick, on va se dire, ah oui, d'accord, il est là. Et la première escarmouche, bah c'est World of Tanks, quoi. Enfin, et du coup terminé. Enfin, si on se tient à la logique de tout ce qu'on vient de dire, normalement Ballary le cartonne en moins de 2 minutes, quoi.
C'est clair. Ouais, non, moi ma seule peur, c'est encore une fois le physique de Ballary qui le lâchera. Mais clairement là, ce combat est fait pour lui. Il doit gagner. Enfin, oui, KO premier round Ballary. On croise les doigts, en tout cas. Enfin, on croise les doigts. Enfin, oui, que le meilleur gagne, oui.
Après, on a
allez battre, mais enfin, c'est vrai.
Enfin, les gens pourraient mal l'interpréter, ça. On n'a rien contre Arcadius, hein, et on n'est pas non plus des fanboys aveugles de Ballary. C'est juste que c'est préférable pour le glory que Ballary gagne. Très honnêtement, si vous êtes fan de ce sport, très honnêtement, la visibilité médiatique tient à la victoire, en fait, de Ballary. Non, mais c'est clair, c'est beaucoup.
Absolument. Enfin,
non, Arcadius ne nous doit pas de l'argent, il n'y a pas de sombre bail comme ça. Enfin, c'est juste. Non, c'est mieux pour le sport, finalement.
Bah, et d'ailleurs.
Ça, puis, Ouais, Oh, on a voulu parler tous les trois en même temps. Ça, c'est assez rare.
Je t'en prie.
Bah, du coup, je vais y aller alors. Oui. Mais non, non, c'est simplement pour dire, bah, évidemment, en fait, ce serait mentir et ce serait se mentir à nous-mêmes si qui que ce soit, qui qu'on soit devant notre écran, on se voilait la face en se disant le Glory fait ça en donnant une chance à Arcadius. Enfin, non, c'est là le Glory eux-mêmes, Arcadius lui-même le sait. C'est pas pour autant qu'Arcadius ne croit pas en lui-même, mais Arcadius lui-même sait que là, il est emmené grosso modo pour faire un highlight à Badrari pour le faire remonter. Donc, personne n'est dupe sur ce que veut le Glory, sur ce qui est censé se passer. Donc, voilà, c'est simplement ça.
Exactement. Et puis d'ailleurs, on adore le Glory, hein, puisque nous sommes partenaires, vous le savez. Vous allez directement sur Glory Fest. Vous pouvez prendre le pay-per-view, mais rappelons quand même que Badrari contre Benjamin Adegbuyé était un title shot eliminator et que le gagnant devait affronter Rico Verhoeven. Et là, Rico Verhoeven le vient le 23 octobre prochain face à Alistair Overeem. Voilà.
Logique.
Logique. Bon, bah, on en a terminé pour cette preview-là. Restez branchés parce que là, ça va être la fin de ce petit podcast sur le Glory et on revient très rapidement pour la carte de l'UFC de ce week-end avec le retour de Darren Till. C'est pour ça que Rust est là. Il est venu avec des munitions face à Paulie Domso qui défendra bec et ongle Derek Brunson. Big shout out à My Sweet Protein. Moins 40% sur tout My Protein avec le code de la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. You already know. À très très vite. Puis voilà. Allez, si. Oh my god.
Yeah. C'est vrai, tu vas être pour Derek.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, vous tapez La Sueur sur toutes les plateformes ou sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez. Et là, vous nous écoutez très certainement en audio. On est aussi en vidéo sur YouTube, mais également sur Snapchat. Là encore, vous tapez La Sueur et on sera là. Merci de votre fidélité et à très vite pour de nouvelles aventures.